On va juste revenir dans un premier temps au verset 9 sur la vigne. Un homme planta une vigne. Parce que la vigne, ce n'est pas n'importe quelle plante. Dans la symbolique biblique, elle désigne le peuple israélite lui-même. Alors il y a pas mal de citations qui viennent attester ça. Mais bon, c'est assez subjectif, hein, j'ai choisi celle qui me semblait la plus évidente. Et donc c'est le psaume 79. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations, tu déblaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Donc c'est sûr que si on lit ce verset à la lumière du Pentateuque, avec la sortie d'Égypte, on comprend très bien que c'est effectivement le peuple israélite que le Seigneur vient installer dans le pays de Canaan, et pour ça il faut d'ailleurs chasser les peuples qui sont présents. Donc la vigne, c'est le peuple israélite. Donc dans les 26 versets, premiers versets du chapitre 20, il y a les 8 premiers versets qui ne demandent, je pense, pas tant de commentaires que ça, si ce n'est de souligner que Jésus va tenir en échec ses détracteurs parce qu'il oppose à la complexité de leur raisonnement, qui est un raisonnement perverti, la simplicité de la vérité. Et donc lorsqu'ils vont lui répondre au verset 7 qu'ils ne savent pas si le baptême de Jean venait du ciel ou des hommes, alors qu'on sait très bien que leur raisonnement n'est pas justement basé sur la vérité, parce qu'ils ont calculé chacune des réponses possibles pour voir qu'est-ce qui irait dans leur sens, eh bien, lui va répondre à leur question, par quelle autorité fais-tu cela? Non pas en disant qu'il ne sait pas, comme eux disent on ne sait pas, mais il va simplement leur dire, je ne vous dirai rien, parce que vous ne me dites pas non plus votre réponse. Mais ce n'est pas parce que Jésus décide de ne rien dire qu'il est pour autant silencieux. J'ai même envie de dire au contraire, on l'a entendu. Il va en profiter pour dire une parabole, et cette parabole est la destination des grands prêtres, des scribes et des pharisiens, et ils ont très bien compris que ça leur est adressé. Et donc dans cette parabole, il est question d'une vigne, donc on l'a dit, qui désigne le peuple d'Israël. Et comme au chapitre précédent, au chapitre 19, eh bien, un voyage assez long est la raison pour laquelle le Seigneur n'est pas présent. Un homme plantant une vigne loua celle-ci à ses vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. C'est le verset 9. Les vignerons sont donc livrés à eux-mêmes. Mais en même temps, que le maître soit là ou non, leur mission ne change pas. Ils doivent faire fructifier la vigne au profit du Seigneur. Donc ces vignerons, ce sont les hommes à qui Dieu, qui est le maître de la vigne, a confié son bien le plus précieux. Et l'identification de ces vignerons ne fait aucun mystère, on l'a dit, pas même aux principaux intéressés, c'est ce qu'on lit au verset 19. À cette heure-là, les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur Jésus, mais ils eurent peur du peuple, ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit cette parabole à leur intention. Mais la finalité de la parabole ne semble pas être exclusivement l'avertissement explicite qui est lancé aux grands prêtres et aux scribes, mais la parabole permet aussi une réponse qui est cette fois implicite sur l'autorité de Jésus. Donc finalement, même si Jésus garde le silence, il ne dit rien directement, indirectement, à travers sa parabole, il va dire d'où il tient son autorité. Jésus, c'est le Fils bien-aimé. C'est celui qui est envoyé par Dieu, le maître de la vigne, pour obtenir les fruits de la vendange. On a souvent plutôt l'image de la moisson, et donc qui va signifier le jugement qui vient. Mais là, en raison du contexte, hein, c'est la vendange. Mais l'idée est la même. Et Jésus va poursuivre son identification. Non seulement il est le Fils bien-aimé qui est envoyé pour la vendange, mais en s'appuyant sur le psaume 117, il va s'identifier à la pierre d'angle. Et la pierre d'angle annonce sa victoire à venir. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Voilà ce qui est écrit dans le psaume 117, versets 22-25. Et on voit dans ce que Jésus dit, que cette pierre, elle est ambivalente. Parce que pour ceux qui la reconnaissent, cette pierre est la pierre d'angle. Donc elle va permettre une édification, elle va permettre le salut. Par contre, cette pierre, elle va écraser tous ceux qui la rejettent. Comme la pierre qui tombe dans le songe que vous connaissez, qui est celui de Nabucodonosor, dans le livre de Daniel. Vous rappelez, il y a une pierre qui tombe d'une montagne, et cette pierre va venir percuter une statue, et cette statue, elle était faite d'or, d'argent, de fer et d'argile. Et donc, elle vient, elle détruit cette statue. Et donc, Nabucodonosor, il est hyper tracassé par ce songe qu'il a eu, et il demande à Daniel de venir, et Daniel va lui expliquer qu'effectivement, cette pierre, eh bien, elle représente un autre royaume. Elle représente le règne de Dieu. Et ce règne de Dieu, il est au-delà de tous les règnes humains parce que c'est un règne qui n'a pas de fin. Et à ce moment-là, quand Daniel a expliqué le songe au roi Nabucodonosor, Nabucodonosor se jette à terre, face contre terre, et il reconnaît dans le Dieu d'Israël, il dit « le Dieu des dieux ». Donc il reconnaît la divinité. Mais ici, les grands prêtres et les scribes, ils se convertissent toujours pas. Et on voit comment est-ce que, à nouveau, on continue sur cette idée des deux voies. Il y a la première voie, donc la voie de la vie, c'est ceux qui reconnaissent la pierre angulaire et donc ils arrivent à une élévation, mais ceux qui ne la reconnaissent pas, c'est la deuxième voie, la voie de la mort, c'est la destruction. La pierre leur tombe dessus. Donc les grands prêtres et les scribes, on l'a dit, ont bien compris que Jésus s'adressait à eux dans la parabole, il les désignait dans le mauvais rôle. Donc ils vont chercher désormais à ternir la réputation de Jésus auprès du peuple en lui posant des questions clivantes. Mais ils vont le faire de manière indirecte. Ils vont envoyer, c'est écrit, des espions qui feront figure de juste. Donc on voit toute la fourberie de la démarche. Et c'est là qu'intervient la question de l'impôt. Question complexe en soi, enfin complexe, en tout cas question clivante. En répondant, verset 25, « Rendez à César ce qui est à César », Jésus fait quand même un choix. Il y a une position qui est la position des zélotes, on en avait parlé, des zélotes, on les avait décrits, ils s'opposent violemment à l'Empire romain, et leur position c'est donc de ne pas payer l'impôt. Donc Jésus prend quand même cette position, qui n'est pas celle des zélotes, de dire « il faut rendre à César ce qui est à César ». Mais Jésus ne va pas simplement donner cette réponse-là, parce qu'il va demander, d'abord il va poser une question à ses interlocuteurs, c'est le verset 24, c'est juste avant sa réponse. « Montrez-moi une pièce d'argent, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ?» Et en faisant ça, Jésus, qui est très futé, va faire comprendre à ses auditeurs qu'il n'est pas dupe du piège qui lui est tendu. Il a bien compris ce qui se passe. Mais il va retourner le piège contre eux. Parce que s'ils possèdent, eux, la monnaie de Rome dans leur bourse, ça veut dire que d'une certaine manière, ils reconnaissent l'autorité de César. Ils utilisent l'argent de César. Donc Jésus ne se contente pas d'une simple réponse. Il démontre comment est-ce que, en réalité, ses interlocuteurs sont de mauvaise foi. Et en plus, verset 25, il dit pas simplement « rendez à César ce qui est à César », il ajoute « et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus laisse donc entendre à ce moment-là qu'il faut être juste en toute chose, dans le temporel et dans le spirituel. Celui qui porte la monnaie de l'Empire romain reconnaît l'autorité de l'Empire romain, et donc il doit s'acquitter de l'impôt. Et de même, celui qui porte la marque de Dieu, et en l'occurrence pour ses concitoyens israélites, c'est la circoncision, ceux qui portent la circoncision, la marque de Dieu, reconnaissent l'autorité de Dieu. Et donc, ils doivent s'acquitter de tous leurs devoirs envers Dieu. Or, l'un des commandements, c'est « tu ne voleras point ». Et si on le met en lien avec « payer l'impôt », ça voudrait dire que ne pas payer l'impôt, c'est donc voler. Donc, c'est ne pas respecter non plus l'alliance.